Compérage, c'est le titre choisi par l'éditeur Éric Pesty pour la rencontre à Montevideo de Bénédicte Villegrain et Pascal Poyer, tous deux auteurs, tous deux traducteurs, tous deux éditeurs. C'est cette soirée, des mercredis de Montevideo, que nous vous proposons d'écouter. Lecture et discussion avec les auteurs. Bienvenue au mercredi de Montevideo pour une nouvelle soirée de rencontre avec deux auteurs. Alors c'est une soirée un peu particulière, à double titre, parce que c'est une soirée qui s'est organisée sans raison ou sans justification d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette soirée n'est pas liée à une rencontre d'auteurs qui vient tout juste de publier un livre et il s'agirait de découvrir ce travail. C'est le désir, une invitation d'Éric Pesty, qui est éditeur, une proposition à Montevideo, de découvrir deux auteurs qu'il a publiés dernièrement. Et donc ça, c'est important de pouvoir aussi proposer des rencontres qui ne soient pas liées directement à une actualité de publication, de se dire aussi que la poésie, elle a une durée d'existence bien plus longue que la question des nouveautés, et qu'elle dure et qu'elle fait son chemin. Et donc, en l'occurrence, là, il s'agira sans doute de discuter d'ouvrages qui ont déjà quelques années. La soirée s'organisera en trois temps. Un premier temps où Éric Pesty, qui est ici présent, présentera les deux auteurs qu'il a invités, en l'occurrence Bénédicte Villegrain, d'une part, et Pascal Poyer, d'autre part. Il présentera ces deux auteurs, puis nous écouterons leur texte, leur lecture, et puis enfin nous aurons tous ensemble une discussion. Je dirais juste ceci de ce qu'ils ont en commun. D'abord, ils se connaissent, ils sont tous les deux auteurs, mais ils sont aussi tous les deux traducteurs, et ils sont aussi tous les deux éditeur. Pascal Poyer anime avec Goria une maison d'édition qui s'appelle Contramain. Et puis Bénédicte Villegrain anime avec Bernard Rival une maison d'édition qui s'appelle Le Théâtre Typographique. Et je dirais juste, avant de donner la parole à Éric Pesty, que ce qu'ils ont aussi en commun, c'est de tenir ensemble, dans leur travail d'écriture, quelque chose qui a à voir entre écrire, lire et traduire, dont il est difficile de démêler l'acte de lire, de l'acte de traduire et de l'acte d'écrire. C'est cela sans doute dont on va discuter et qu'on entendra. Je laisse la parole à Éric Pesty. Bonne soirée.
Alors c'est juste un petit mot pour, dans un premier temps, préciser le titre de cette soirée qui s'appelle « Compérage ». Et alors le mot de compérage, je l'emprunte librement à un livre de Pascal Poyer qui s'appelle Compadrio et qui était en fait le premier titre de la collection Contramain, moi qui m'a beaucoup touché, intéressé et tout. Et par ce mot de compadrio, en brésilien, on entend le rapport qui unit, le lien qui unit un parent, son enfant et le parrain. Et donc, c'est donc quelque chose qui est de l'ordre de l'amitié, de la réciprocité. Voilà. Et donc, il me semblait bien dire le lien qui nous réunit. J'ai mis le mot « compérage » au pluriel dans la mesure où on ne forme pas un groupe fermé ou quoi que ce soit, et qu'au contraire, il y a d'autres cercles, d'autres affinités qui viennent comme ça chevaucher et emmener, je crois, chacun d'entre nous vers des espaces et des fois des disciplines qui sont différentes. Donc, compérage, pour laisser à la fois ouvert les espaces autour de nous, mais à la fois dire quelque chose d'une affinité qui me semble exister. Elle existe au premier plan, de mon point de vue, du fait que, donc, comme Emmanuel l'a dit, Bénédicte et Pascal sont éditeurs. Bénédicte a fondé le Théâtre Typographique dans les années 80, Elle est rejointe très vite par Bernard Rival, et ça fait donc un catalogue qui, sur une durée de 30 ans, un catalogue extrêmement important, enfin, auquel moi je suis très très attentif. Pascal et Françoise Goria ont fondé Contramain à la fin des années 90, et là on va fêter le 100e titre dans la prochaine livraison. Donc voilà, il y a là aussi beaucoup de travail qui a été fait et des textes toujours très importants, moi, à chaque fois qui me requièrent. Et alors je suis le petit dernier de cette généalogie-là, puisque j'ai fondé ma maison d'édition en 2005. Et en effet, on a fait des livres avec Bénédicte et avec Pascal. Et chronologiquement, il y a d'abord le livre de Pascal qui s'appelle « Draguer l'évidence » que j'ai ici. Alors, il est dans la collection Brochet. Il y a deux collections, Brochet et Agrafé. Bon, ici, c'est un Brochet que nous avons fait avec Pascal en 2011. Et ce livre, il est composé de à la fois une partie imprimée et une partie enregistrée avec un CD donc, qui est joint au livre. Et vous allez voir comment Pascal, sans doute ce soir, travaille sur ces registres de l'écrit imprimé et du texte énoncé à haute voix. En 2012, je crois l'année d'après, nous avons fait, alors j'étais content qu'ils soient tous les deux sortis tous les deux en même temps, cette fois c'est la collection agrafée, deux livres, alors un autre livre de Pascal Poyer, puis un livre de Bénédicte. Le livre de Pascal, il s'appelle Linéature, et en fait c'est un commentaire d'une des pages de Draguer l'évidence, donc il est vraiment adossé à ce livre Brochet qu'on avait fait l'année précédente. Et le livre de Bénédicte, qui s'appelle Chou, c'est le 10e chapitre de sa grammaire tibétaine. Bénédicte écrit une grammaire tibétaine et qui a commencé. Enfin, le premier chapitre a été publié par Contramain, précisément dans les premiers numéros, donc par Pascal et Françoise, Pascal Pouillet et Françoise Goria. Donc tout ça fait une. des choses qui convergent comme ça et qui sont pour moi qui ont toujours été très passionnantes. Enfin, ça fait partie de mes livres de chevet, tout ça. Et enfin, je finis en disant que nous avons un invité supplémentaire ce soir en la personne de Ludwig Wittgenstein. Bon. Alors, il s'est fait que je publie une revue qui s'appelle Koshkonong et qui est dirigée par Jean Dev. Je vais faire le 10e numéro, là, bientôt. Et le premier numéro s'est ouvert par une page du Tractatus Logico-Philosophicus, donc de Wittgenstein, et qui est barrée. Et je pense que cette bifure-là, ce geste de barré, a assez intrigué ou peut-être amusé Bénédicte ou l'a interrogé. Et quand Jean Dev lui a proposé d'intervenir dans Koshkonong, elle a en fait travaillé sur ce tractatus de Wittgenstein, en le reprenant en version tibétaine. Mais vous aurez un aperçu de tout ça tout à l'heure. Pour Pascal, dans le deuxième numéro de Koshkonong, donc qui est ici, Jean Dev a publié une retraduction. Il a demandé à Michel Cohen-Halimi de retraduire les premières propositions du tractatus, donc de ce même tractatus de Wittgenstein. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a teinté à l'oreille de Pascal ou qui a interrogé là aussi un peu Pascal, qui devait être en train de le lire en même temps. Il y a aussi des jeux de coïncidences comme ça qu'il ne faut pas négliger. Et donc, assez vite après la publication de ce deuxième numéro, Pascal m'a envoyé un texte qui parle aussi du tractatus. Et donc ce texte, en fait, on l'a publié sur le site de la maison d'édition, il y a un petit bulletin. Et donc, c'est un texte très, 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 très beau, plutôt de lecture, c'est-à-dire de Wittgenstein. Et enfin, donc, dans Koshkonong, Bénédicte a publié sur deux pages une interprétation donc de ce tractatus. Et donc c'est un peu le point commun de cette soirée, mais qui va se dérouler je ne sais trop comment. Je vais juste laisser la parole pour la suite à Bénédicte. Voilà.
Alors, en ce moment, je travaille, ou plutôt je vaticine, autour d'une notion que je désigne par le néologisme désauteurisation. Vous savez sans doute que Roland Barthes, avec un article qui s'appelait « La mort de l'auteur » en 1968, et Michel Foucault, en 1969, avec le texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un auteur ?», ils ont eu beau œuvrer à la mort de l'auteur. Il en va de l'auteur comme des déités indiennes que la pensée de Bouddha a cherché à destituer de leur divinité. Tout d'un coup, au milieu de ces formes exubérantes épousées par les dieux, on avait un homme à une seule tête et deux bras, Bouddha, il y a plus de 25 siècles, a fait table rase de la divinité. Hélas, la descendance de ses disciples n'en a pas tiré la leçon. En allemand comme en anglais, autorité et auteurité sont des mots dont les usages se contaminent, des mots qui existent. Authority, authorship, Autorität, Autorschaft. Étrange époque que la nôtre, où l'on n'aime pas trop l'autorité, mais où l'on aime au contraire beaucoup l'autorité. Comme le disait Michel Foucault, la disparition de l'auteur, qui depuis Mallarmé est un événement qui ne cesse pas, se trouve soumise au verrouillage transcendantal. Comment s'y prend-on pour désauteuriser ? Le compérage, cette notion sous le signe de laquelle Eric a placé notre rencontre, me paraît être la voie royale et j'y reviendrai. On peut aussi étudier les langues. On découvre alors, dans nombre de langues, par exemple les langues iraniennes, dont les langues kurdes sont un sous-ensemble, ou les langues tibétaines, auxquelles je m'intéresse, on découvre des résidus plus ou moins fossilisés d'une notion déstructurante au regard de notre psyché, formée à l'analyse logique de nos cours de grammaire dans l'école primaire. Cette notion s'appelle l'ergatif, une notion de linguistique. C'est une notion qui déplace le centre de gravité de la phrase du sujet vers l'objet. Même le français en porte des traces. Comment expliquer sinon que le participe passé s'accorde avec l'objet quand celui-ci est placé avant l'auxiliaire avoir ? Comme dans « la chose que j'ai perdue ». Perdu, UE. Supposer que je perde un livre ou que je l'ai vu. Est-ce moi qui ai perdu le livre ? N'est-ce pas seulement mon livre qui s'est perdu ? J'ai perdu la propriété du livre. Suis-je pour autant le propriétaire de sa perte ? Est-ce moi qui ai vu Gendun ou s'est-il fait voir de moi ? Une ambiguïté que le verbe « regarder » devrait lever car l'ergatif dont je parlais est plus ou moins fonction de la volonté. Oui, mais pas seulement. Sur ce point comme sur d'autres, l'endroit d'où je parle oriente la syntaxe. Mes perceptions, verba sentiendi, voir, entendre, sont par moi mentalement effectuées. Mais j'en suis aussi la destinataire. Il semble que cette seconde conception se rencontre, qui rencontre quoi ? Plus fréquemment hors du dialecte central, en périphérie de la langue de Lhasa. Lhasa, donc capitale de l'ex-Tibet. Lha, ça veut dire les dieux, et ça veut dire terre. Donc Lhasa, terre des dieux. J'ai énoncé dans ce cahier qui est récemment paru, qui s'appelle « Introduction à Chu », Chu avec une aspiration, quelques-uns des traits de l'ergatif ou de l'ergativité dont je viens de vous parler. Je les ai énoncés sous la forme d'un poème. Le poème porte le titre « Escompter un sens ». Et le titre ainsi que la prosodie de ce poème, je les ai empruntés à un autre auteur, ou, enfin à un poète qui vit à Berlin et qui s'appelle Ulf Stolterfoht. Mais le contenu de mon poème n'est pas le contenu de son poème. Il n'y a que la forme que je lui ai empruntée. Escompter un sens. Rétablir l'œil de la lettre. Coda, il arrive que dans des textes comme le nôtre, affleure le talus en plomb. Relater une action, c'est aussi décrire le procès de son imputation à un agent, à quelque plus ou moins un. Instrument de bois qui fit la boîte en bois. Toutes, à mon avis, d'un locuteur âgé, c'est-à-dire circonspect, est avis qu'il ne pense qu'à briter. D'où, en s'avançant, dans la phrase « J'ai rencontré Gendun », contester « je sujet », dialectalement tenu pour cible, une correction de l'objet indirect. En ville, on se considère comme « verba sentiendi », regardeur de forme. À la périphérie, avoir vu des étoiles filant au premier quartier de la lune ne nous incombe pas. Si subsidiaire semble le distinguo, aussitôt embarqué, projetés sur la palette d'un écarisseur, les rouges sont devenus prégnants. Pêcheurs, ils épargnèrent la vie de leurs poissons. Déduisez la plus-value, sans suspecter la calomnie, qui force la phrase à signifier s'encombre d'un cadavre, c'est-à-dire leur fonction abandonne ses parties. Ce qu'on attend d'un tigre, qu'il accable nos yaks. De qui les croit-on les destinataires? De la peur ou du tigre? Être gêné ou avoir honte? Loin que la paix réactionnaire fût estimée facteur d'affranchissement, on est venu nous libérer pacifiquement, la panacée des communaux, ultime faveur d'un corps humain, d'aucun l'arbore en signe de volition, du vent, d'autant mieux en dépit, nuit et jour, toujours. L'une des propositions analysées dans ce poème, c'est « J'ai rencontré Gendun ». Qui est Gendun? Et n'est-ce pas plutôt lui qui s'est fait connaître de moi? Gendun Choepel est né en 1903 en Namdo, une région au nord-est du Tibet, aujourd'hui en Chine, entre le Qinghai, le Gansu et le Sichuan. D'abord éduqué à la dialectique, la logique, la théologie, dans les meilleures universités monastiques du Tibet, Gendun Choepel a renoncé à ses vœux et poursuivi sa formation en autodidacte, parcourant l'Inde, du Bengale au Sri Lanka, de 1934 à 1945. Il est mort à Lhasa à la suite d'une incarcération liée à ses positions politiques contre certains pouvoirs acquis du gouvernement tibétain encore en place à cette époque-là. Il est aujourd'hui considéré comme précurseur en historiographie, poésie, philosophie, philologie. La toute dernière œuvre de Gendun Choepel s'appelle « Ornement », une appellation traditionnelle pour des textes de commentaires. Gendun Choepel commente Nagarjuna, célèbre philosophe indien du IIe siècle après Jésus-Christ, réputé pour son école dite « du milieu », Madhyamika, école selon laquelle a une perception d'un état des choses qui ne peut s'avérer être que de l'ordre de l'opinion, devrait répondre une opinion contraire, sans plus de réalité que la précédente. Une dialectique déconstructive, donc, qui toucherait au nihilisme, selon certains. Or, Gendun Choepel tente de réhabiliter l'effectivité des objets. Que d'étapes avant de se requalifier contre nature? Un constat éminemment polémique. Qui, sous l'entaille de son soc, ne dérange pas les dieux du sol, n'extrait pas le minerai, respecte la retraite des Jidaks, celui-là est sur la voie, achève rarement l'ouvrage de l'âge. Naga Nagarjuna coupe les cheveux en quatre. Si trois sont les sections, postulez qu'un yijak les a subdivisées. Encore heureux qu'il te ménage. Reste une place entre Trotsky et Sankrityayan. Change d'aiguille en milieu de phrase. Système de thème, de rem. Distribution de grains. Un mot, si vous permettez, en faveur de l'inobservance. Inapparaître ne profite pas à qui rejette l'inexistence. Scrupule à entériner la validité de telles expressions. D'un coup pris acte de la justesse du dessin, voire son aptitude à me nourrir, en vendre pour vivre, ou alors s'être dépouillé tout à fait. Les Theravadines sont mes amis, ne rien devoir, peut tout, et ainsi soit le Dhammapada retraduit. Plus ou moins que l'apprentissage par un pandit, désinvolte, dévotion envers le Pali. Gendun en yogine, en satiriste, Gendun en geshe, dès ses débuts bizarrement brillants, Gendun en tibétain, en libertin, signale la voie, hélas aussi une dépouille sous expertise. Communiste ou seulement sympathisant, se prononcer d'après le gestus relaté. Genius que discipline les fourrés. Par où sortir du samsara? On est susceptible de parler du monde, à condition de ne pas surinvestir le doute. La corbeille des sutras cumule de quoi poser un sol théorique. Plaît-il? Rien. Si, trêve de subdivision. Le double tranchant de la connaissance a beaucoup mobilisé. Des vies sans plus d'ambition que s'acquitter d'un impôt contracté dans la vie d'un autre. Cette toute dernière œuvre dont je parlais tout à l'heure, cette œuvre qu'a laissée Gendun Choepel, elle a été dictée à son disciple, Dawa Sangpo, éditée posthumement. On lui en conteste donc l'autorité. L'autorité, un procès qui m'arrange, à moi qui cherche à désautoriser. Un procès qui, comme vous savez, est fréquemment intenté, même ou surtout à des œuvres très célèbres, comme par exemple celle de William Shakespeare. Les œuvres sont-elles le résultat de compérages? L'une des lectures qui nous rapproche, Pascal Poyer et moi-même, comme l'a dit Eric, une lecture qui nous rapproche aussi de beaucoup d'autres lecteurs, c'est la lecture, en amateur en ce qui me concerne, de Ludwig Wittgenstein, revenu, comme on sait, dans ses investigations philosophiques, sur l'analyse du langage qu'il avait mené dans le Tractatus Logico-Philosophicus. Les investigations seront publiées posthumement. Ludwig Wittgenstein, qui meurt en 1951, comme Gendun Choepel, les postfaces en 1945, il écrit « Pour de nombreuses raisons, ce que je rends ici public aura des points de contact avec ce que d'autres écrivent aujourd'hui. » Gendun, dans son ornement, souhaite relativiser la toute-puissance de la logique langagière au profit de substances qui, quoique faussées par leurs apparences, ne se résument pas qu'à des opinions, mais peuvent aussi soutenir, par exemple, les expertises menées par la science, surtout si elles sont contradictoires. C'est pourquoi, dans le monde tibétain, où l'écrit fondait toute théologie, et ce de manière très hiérarchisée, car la foi en l'écriture hiérarchise, c'est bien ce que je voulais dire, Gendun Choepel n'a pas pu être reçu, à l'époque tout du moins. Je termine en lisant quelques extraits d'une double copie dont parlait Eric, que j'ai faite du tout début du Tractatus. Deux copies, toutes les deux non conformes, publiées par Eric et Jean Dev dans le numéro 8 de Kochkonong. Je n'aurai pas le temps de lire ce soir les numéros qui précèdent les propositions, comme dans le texte de Wittgenstein. Et ce sera bien, comme ça je pourrai céder la parole à Pascal. Voilà, les cailloux sont tout ce qui est à casser. Le roi est un ensemble volontaire, pas ses outils, La masse ou gros marteau est animée par le roi étant égal à la totalité de ses volontés. Car la totalité de ses volontés cible les cailloux à casser et aussi les cailloux à ne pas casser. Les cailloux, sous le régime direct, sont l'objet. L'objet est soumis aux effets de l'outil. Une chose peut ou bien être un outil ou bien ne l'être pas, non plus qu'une cible, toute chose demeurant égale par ailleurs, ce qui est cassé, le caillou, et l'existence d'un état du verbe. L'état du verbe est d'être une combinaison de désaccords. Deuxième copie, les cailloux sont tout ce qui est à casser. Le lama est un ensemble autorisé. Les sorts ou imprécations sont investis par le lama étant égal à la totalité des jugements qu'il rend. Les cailloux sous le régime oblique sont la cible. La cible est soumise aux effets des imprécations, ce qui est éclaté le caillou et l'existence d'un état du verbe. Merci.
Je vais lire une description. Et dans quelle langue cette description ? Eh bien, dans une langue connue de nous. La phrase exacte est « dans une autre connue de nous ». Dans la description apparaîtront souvent, le verbe veut dire aussi « se produire », « arriver », les mots « parfois » ou le mot « parfois » ou le mot « la plupart du temps » ou le mot « habituellement » ou le mot « presque jamais » ou « presque toujours ». Il est difficile de se faire une... Le verbe est « faire », mais le traducteur écrit « former ». Il est difficile de se former une image précise, une bonne image, d'une telle description, de cette description. D'une description pareille. Au fond, je suis peintre, mais souvent un bien mauvais peintre. Remarque, tiens, passant comme suit, moitié-moitié, de part et d'autre de la virgule, de, passant, la première à la deuxième personne, traduite, dès que je me prépare à une éventualité, tu peux être assez certain qu'elle ne se produira pas. Dès que je me prépare à une éventualité, virgule, tu peux être assez certain qu'elle ne se produira pas. À peu près certain. Dont on croira, remarque, dont on croira le verbe d'apparition, bouton on et in, se produira, disant aussi entrer dans une pièce. Celle qu'on appelle ici éventualité pouvant ne pas entrer, on continuera de parler d'elle au futur de la préparation donc. Entrer, et l'on parle d'elle au présent du mot déjà. Pouvoir, dont on croira, remarque, pouvoir, modifiant la phrase en conséquence, dire ou déduire provisoirement, qu'est-on tout, c'est-à-dire tout indifféremment, ce qui est le cas, arrive, tout ce qui arrive, le monde, est contre toute attente. Que le soleil se lève demain est une hypothèse. Il n'y a pas là le mot, ici la signification. Hésitation. Ici le mot et là sa signification. Les traductions différentes sur ce point. Confère, récitation, l'argent et la vache que l'on achète avec. L'arrêt sur mot, chantonné, ceci, l'arrêt sur mot est le contraire de l'arrestation du sens. tout le contraire, puisqu'ici, ici c'est moi. On verra plus tard l'explication qu'on devrait donner, qu'on serait en droit d'attendre de l'usage d'un mot pareil, moi, donc, qui m'arrête. Moi qui me suis arrêté sur trois mots en incise, veux-je dire, dans l'ordre, vouloir Wittgenstein dire. C'était là, devant le verbe, le langage est un raffinement. Le langage, veux-je dire, est un raffinement. Et avant de lire ou traduire, acte, action, devoir, avant, devoir, plutôt, devoir, au-dessous, ce nom féminin, seul à la ligne, il se trouve, nom dont on a traité les mots aussi, les mots sont aussi des, et que reviennent, avant, que reviennent de s'arrêter, voir là, devant lire qu'au commencement était l'action, Goethe, texto, d'autres phrases, que reviennent d'autres phrases, l'une phrase contenant le mot phrase, et finissant par les mots lire et rythme, ou bien tempo. Donc l'image qu'on s'en fait manque de précision, mais les traductions diffèrent aussi sur ce point. Qu'il arrive, ou plutôt qu'il arrive que parfois, une phrase ne devient compréhensible que si on la lit, que si elle est lue, avec le rythme voulu, le rythme approprié, le bon tempo. Ces deux mots soulignés. L'autre phrase, contenant elle-même les mots phrase et lire, est soulignée, l'adverbe lentement. Toutes mes phrases sont à lire lentement. À se demander, dans ce genre de course, l'emporte qui franchit la ligne le dernier, à se demander deux autres phrases ailleurs commençant chacune par j'aimerais, proposant consécutive de ralentir, j'aimerais vraiment ralentir le rythme ou le tempo de la lecture par l'abondance de mes signes de ponctuation, mes signes, je souligne, puis d'être, j'aimerais être lu lentement, et cette indication entre parenthèses comme je lis moi-même, s'il ne faut pas, à se demander, entendre pareil souhait, que ça se fasse où on verra, comme des scénarios dont d'autres phrases ici-là permettront, possible, de mieux délimiter le, disons, champ d'application. Certaines phrases contenant le mot phrase comme, ou plutôt d'abord certaines ne contenant pas le mot phrase, comme « Depuis combien de temps doit-on avoir compris l'ordre avant de le suivre ?» D'autres, contenant le mot « phrase », de toutes les phrases que je consigne ici, ce n'est que la énième qui accomplit un progrès. C'est comme là, tenez, plus haut. Le verbe d'emblée, plus un adverbe se traduisant « venait de prendre ». Le pronom de la première personne du singulier, si l'on en juge par la forme du verbe à cet endroit, du verbe du moins tel qu'il est traduit, venait de prendre, ayant été omis ce pronom au démarrage, alors qu'on l'aperçoit à trois reprises sur les deux lignes suivantes, et bien que la personne dont il s'agit apparaisse encore dans trois phrases, trois. Mais les combientièmes, 3 sur 5 que le texte compte, apparaissent pas moins de 4 fois la personne que l'on peut traduire. Alors que je recopiais une phrase de moi, il en va généralement ainsi pour moi, tout ce qui m'arrive devient pour moi. Les trois dernières bout à bout, sans interruption, que la ponctuation. Il en va généralement ainsi pour moi, virgule, tout ce qui m'arrive devient pour moi, etc. L'avant-dernière disant exactement, elle, tout ce qui m'arrive ou se présente en chemin. Les trois lettres du mot chemin, d'ailleurs, les trois lettres du mot chemin, ou du terme qu'il serait possible dans un contexte différent de traduire par moyen, c'est en anglais le cas de way, servent également, ces trois lettres, ici, également de préfixe aux deux verbes associé à la fin de la première phrase, coupé et jeté. Préfixe indiquant ici que l'on coupe pour enlever et entend se débarrasser de ce qu'on jette. C'est le rôle d'ailleurs, mais de l'autre côté du verbe, cette fois de away en anglais. Outre, immédiatement après le verbe d'emblée, l'adverbe. Outre l'adverbe signifiant la courte antériorité de l'action décrite, prendre, sur le moment où le récit commence, traduit venait de prendre, se remarque les adverbes de temps, les autres adverbes de temps, longtemps, ensuite, aussitôt et encore, lequel, encore, entre je et pense, signale que cette action, pensée, est en cours quand arrive quelque chose. Suit direct, entièrement entre parenthèses, la question par laquelle se clôt le récit. Est-ce là une certaine féminité dans l'attitude ? C'est là l'unique point d'interrogation. Des noms aperçus entre-temps, dont la majuscule obligatoire attire l'œil au passage, du moins un œil étranger, en dehors de phrases, propositions et de tableaux, images, qui, d'un endroit à l'autre du texte, se répondent, croirait-on, deux aperçus, deux noms, pomme et moitié, se distinguaient par leur répétition. La dernière fois, au tout début de la quatrième ligne sur 5,5, que les mots ressemblant pour un peu, pour cet œil étranger, qu'ils traduisent sont apparus, ils étaient réunis. Une pomme à moitié pourrie. Wittgenstein, ainsi qu'il lui est arrivé d'appeler tout court le personnage de ses enquêtes. Regarde, je peux faire aller Wittgenstein exactement là où je veux, peut-on lire dans les leçons sur la liberté de la volonté. Venons de dire qu'alors qu'il, Wittgenstein, recopiait une phrase, de lui jugée à moitié, la dernière moitié, dit-il, mauvaise, il l'avait vue, cette phrase de lui, comme ces pommes qu'il venait de prendre dans un sac en papier, gâter ces pommes partiellement, d'y avoir séjourné longtemps, dont il avait coupé et jeté ces pommes, les moitiés abîmées, et que tout ce qui lui arrive se présente en chemin, dit-il, en chemin, devient aussitôt une image de ce à quoi il est en train de penser. Déclaration précédant juste la question posée entre parenthèses, aparté. Se désignant à présent, Wittgenstein toujours, par le pronom réfléchi ouvrant, majuscule, le fragment suivant, écrit que m'arrive, le dit avec le verbe aller, dans ce travail, en cours, ce mot se montrant aussi cette phrase, ce qui arrive, aller, à qui on faisant à cet endroit sa première apparition, en vain cherche, le verbe disant se fatiguer, à se rappeler un nom, en vain. Le mot nom est un autre comme souvenir ou mémoire gardé dans cet ordre, à distance, la distance de deux mots vides, comme on appelle les mots qui renvoient aux autres mots, pas aux choses, sur cette première portion de phrase finissant avec le verbe « appeler ». Et s'entend alors dire, qui en vain cherche à se rappeler un nom, « on », deuxième apparition, le conseil est entre guillemets, pense à autre chose et, ainsi qu'il l'écrit, une majuscule au pronom de la deuxième personne, cela, ça, c'en est une sorte de pronom, lui aussi, te reviendra. Et de même que lui, qui pour le dire écrit « je », avait dû constamment, en fait toujours encore, penser à autre chose, ne reprenant là que le mot « chose », pas le mot « autre », pardon, pas le mot « chose », en fait « autre sans quelque chose », penser à autre chose, penser à autre, pour que puisse lui revenir, me revenir, Wittgenstein, même verbe d'échéance, même verbe bouton marche, revenir, ce qu'il, c'est-à-dire ici le pronom je pour la deuxième et dernière fois, avait, la phrase paragraphe s'arrêtant sur ces mots, longtemps cherché, cherché, souligné. Qui reprendra, à son compte, reprendra, collant encore exagérément aux mots visibles, la conclusion de l'expérience telle que rapportée plus haut, qu'il en va toujours ainsi pour lui, tout ce qui se présente à lui en chemin, c'est-à-dire lui arrive, devient en lui, pour lui, une image de ce à quoi il est en train de penser, de là, de là-haut, pour informer le scénario suivant. Scénario de phrase. Couper en deux des pommes, par exemple des pommes à moitié pourries, et jeter la partie abîmée. Puis, les fruits une fois coupés, débarrassés de leur partie abîmée, modifier une phrase en conséquence. Et, comparant pendant qu'on y est la réalité à la phrase, ou ce que, l'ayant sous les yeux, on tiendra d'une part pour vrai, considérera le monde étant tout ce qui tombe en fait, incontestable, comme la réalité, considérera, mais qu'on appellera comme on voudra, réel ou cas, phénomène, évidence ou rien de garanti, et d'autre part pour la phrase, contiendra, dont pareil on peut parler sous d'autres noms, saisira, on, qui, à son compte, reprendra, l'occasion saisira pour voir, cela se voit-il, un, si, du moins au présent de l'occasion, saisit les choses, un nom encore les choses, sont, comme la phrase le montre, sans quoi, comme on croit pouvoir dire, la phrase ne saurait être vraie, elle. Deux, comment, je cite Thomas Bernhard, comment, arrivé au point le plus éloigné, relativement à l'objet que je dois considérer ou pénétrer à fond, pour pouvoir le mieux considérer et pénétrer à fond cet objet, puisque s'approchant, grandit l'impossibilité de pénétrer à fond l'objet qu'on approche. 3. La phrase, quelle que soit à présent la différence, est-elle dessinable, cette différence, entre une phrase et je veux dire, est-elle devenue, la phrase, de ce à quoi je suis en train de penser ? Afin de répondre, ou autre façon de siffler un thème de manière expressive, à l'une ou l'autre question, répondre, selon le scénario, on modifiera en conséquence, c'est-à-dire à moitié, une formelle idée de départ, déclaration que l'expérience étant ce qu'elle est, revoici devant soi, le monde et tout ce qui arrive, arrive et passera, en découpant suivant la virgule précise qui, dans la version originale, divise la phrase en deux, par le milieu, passera à tout ce qui m'arrive, le monde, se présente à moi, c'est-à-dire en chemin. Pas surpris, pas vraiment surpris, après tout, de l'entrée au présent de tout ce qui arrive, au présent des présentations, de son propre cas, dans l'idée de départ ainsi rejointe. Merci.
Bénédicte Villegrain. Tout à l'heure, Éric Pesty parlait de ce livre qui se prononce Tchou, publié dans la maison d'édition d'Éric, qui est en fait le 10e chapitre d'une grammaire tibétaine. Et je crois que le premier chapitre avait été publié dans les éditions Contre-à-Main par Pascal.
Le premier, le troisième, le sixième et le neuvième.
Voilà.
Je suis dans le douzième, donc.
Je précise cela pour revenir sur cette somme de correspondance que vous avez, de compérage, comme pour reprendre le mot proposé par Éric. Ce que je vous propose, peut-être, comme petit jeu, d'abord, pour commencer, c'est de me dire l'un et l'autre ce que vous entendez lorsque vous êtes confrontés au texte de l'un et de l'autre. Qui veut commencer ? Bénédicte ?
Bon, alors, on a triché tout du long, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que Pascal, une partie de ce qu'il a lu ce soir, je l'avais lu, écrit, une partie, hein, j'entends. D'autre part, Pascal, on s'est vu, il m'a parlé. Alors, j'ai pensé à des choses auxquelles je pensais à propos de l'écriture de Pascal. Et puis il a lu ce soir, et manque de peau, c'était encore différent. Donc, je ne sais pas si je vais vous dire ce que j'avais prévu de vous dire plus autre chose, ou si l'un va se déduire de l'autre. En tout cas, une des choses qui m'est apparue comme nouvelle, c'est que le début de cette lecture, là, le début de cette lecture, c'était véritablement, ça m'a rappelé un spectacle à propos de Thoreau, du Walden de Thoreau, un très beau spectacle dans lequel les acteurs retraduisaient au fur et à mesure qu'ils jouaient tu l'as vu d'ailleurs, Eric. Bon, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Et en fait, aucune des phrases, enfin, dans beaucoup de parties du spectacle, aucune des phrases de Thoreau ne pouvait être dite en français, parce qu'au fur et à mesure qu'on énonçait une traduction, on la recommençait, et voilà. Et le début de la lecture de Pascal m'a terriblement fait penser à ce spectacle. Alors, donc, ça rejoint une autre idée que j'ai depuis longtemps, que Pascal... écrit comme s'il traduisait, donc il traduit de quoi vers quoi. Il y a dans la traduction une impossibilité qui, moi, que je ressens très fortement, une impossibilité de rendre par la traduction la langue qu'on appelle la langue source, une impossibilité de la rendre dans la langue qu'on appelle la langue cible. Et chez Pascal, c'est pas une langue source et une langue cible, en tout cas dans son écriture, c'est parler, comme d'autres l'ont fait, hein, d'une impossibilité à traduire dans le langage, mais justement pas à traduire dans le langage des choses, mais en fait une impossibilité à traduire dans le langage, parce qu'au fur et à mesure qu'il énonce, il s'interroge sur ce qu'il énonce. Et chaque énoncé le fait réagir en même temps ce qu'il énonce et ce qu'il entend. Et de réaction en réaction, c'est ce jeu, peut-être, J-E-U, qui fait que ça reporte toujours le moment de la traduction, parce que la réactivité est telle que le chemin est long. Et dans la phrase que tu as reprise de Thomas Bernard, il y a en fait la description d'un parcours asymptotique. Plus on s'approche et plus l'objet est loin. Et donc cette phrase donnait une bonne image des travaux d'approche en permanence que j'entends mais que j'entends, parce que quand je lis et que je regarde, c'est effectivement encore autre chose. Voilà, bon. Je laisse la parole.
Pascal, bon, c'est, là, ça me fait rebondir à un autre texte qui avait été publié aux éditions du CIPM, dans lequel on pouvait lire, j'ai oublié le titre, mais dans lequel on pouvait lire, toucher veut dire toucher, c'est tout ce que je peux dire. Et puis plus loin, quand je dis touche, ça ne touche pas. Et en fait, cette question de la traduction que vient de poser Bénédicte, comment traduire l'expérience, c'est qu'à chaque fois, quand je dis touche, ça ne touche pas. Et donc, il y a quelque chose qui nous échappe. Et en même temps, le disant, c'est rejouer encore cette tentative-là de traduire dans la langue quelque chose de l'ordre d'une expérience. En l'occurrence, par exemple, sur ce livre-là, Lignature, il s'agit de tenter, d'une certaine manière, peut-être, de traduire un passage du livre Draguer l'évidence. Comme si tout ce livre, Lignature, ce serait la tentative d'une traduction en tant que lecteur de son propre texte, mais en même temps, cette lecture devient écriture, donc traduction aussi. Voilà, la tentative de traduire un extrait de Draguer l'évidence devient un texte à part entière qui s'appelle Lignature.
Oui, je suis content d'avoir échappé à la première question.
Non, on va y revenir quand même.
Et ça bouge beaucoup un texte. En écrivant les formes carrées comme ça, comme celles que j'ai projetées ce soir ou celles de Draguer l'évidence, je me disais qu'il y avait deux modes d'existence du texte, un mode, on va dire, essentiel et un mode accidentel, qu'un texte était fait de phrases, en tout cas de positionnement de mots les uns après les autres, et ça c'est la forme essentielle. Et puis il y a une mode accidentelle qui est ça. À quoi il se met à ressembler sur une page. Et selon comment l'éditeur du texte publie ce texte, il prend une apparence ou une autre. Et ces pages, comme celles que j'ai projetées ici, sont un peu se font dans ce questionnement-là et sont un peu le désir de réconcilier ces deux modes d'existence du texte, de faire que l'un puisse parler dans l'autre, etc. C'est quelque chose que tu as dit qui me fait dire ça, mais je sais qu'il y avait plein d'autres choses. Alors l'histoire de toucher, c'est le livre s'appelle Un sens facétieux. C'est un livre qui a été écrit dans une résidence à Tanger. Enfin, après. Parce que pendant la résidence, je me promenais. Et donc, justement, j'étais sur un boulevard. Le soir, à Tanger, vers 18h, à peu près, tout le monde sort. Et monte et descend le boulevard, comme ça. Jusqu'à 11h du soir. J'ai pas fait attention, mais on doit pouvoir revoir passer les mêmes personnes dans un sens et dans l'autre. Il y a de la drague, tout ça. Enfin, c'est un moment assez fort de la ville. Et puis on achète, on rentre dans les marchés, on achète plein de choses, on boit des cafés au lait, etc. Donc les trottoirs sont bondés. Et ce moment que tu évoquais, c'est que je raconte donc dans Un sens facétieux, qui est une sorte de récit. C'est un récit d'expérience à la fois de texte et de ville. Donc je monte le boulevard et un groupe de personnes arrive en face et pour qu'elle passe, il faut que je me pousse. Et en l'occurrence, à ce moment-là, je ne me pousse pas. Pas parce que je regarde ailleurs, hein, c'est pas aucun défi. Non. Et l'une des personnes me prend le bras comme ça et me pousse sur le côté. Voilà, c'est un truc assez... Et après, je me dis, mais alors qu'est-ce que toucher veut dire? Voilà. Qu'est-ce que toucher veut dire si on prend une définition du verbe toucher, il faut qu'il y ait une intention, pour une définition du sens propre de toucher. Hein, je ne parle pas de toucher de l'argent ou de toucher juste par une réplique ou quelque chose comme ça, mais de toucher au sens propre. Le contact. Et pour que le sens propre, pour que le sens de toucher soit plein, il faut qu'il y ait intention, de la personne qui, par exemple, tend la main, il faut qu'il y ait contact, il faut qu'il y ait sensation de la personne touchée et de la personne qui touche. Il faut donc qu'il y ait deux personnes vivantes. Non, parce qu'on peut toucher la table, mais c'est déjà plus tout à fait le sens propre, parce que la table n'a aucune sensation. Donc on s'éloigne déjà un petit peu du sens propre, du sens plein, en tout cas. Et là, le geste était tellement automatique qu'il me semblait qu'il échappait, bien qu'il soit rien d'autre que toucher, et que toucher, toucher, c'est tout ce que je peux dire, il échappait en même temps à la plénité du sens propre de toucher. Et c'était pas du tout une façon de toucher figurée non plus. Donc dans ce chapitre de ce livre, qui est le dernier chapitre du livre, je me demande qu'est-ce qui se passe dans toutes ces valeurs du sens propre de toucher. Qu'est-ce qui fait qu'un seul verbe en fait recouvre une multitude d'expériences, et je propose un certain nombre de petites choses que j'ai d'ailleurs beaucoup utilisées dans Draguer l'évidence, qui est d'adjoindre, mais en fait c'est ce qu'on fait tout le temps, hein, c'est d'adjoindre un autre mot à toucher pour adjoindre, donc souvent c'est un adverbe qui lui sert d'adjoint, et on dit toucher fort, toucher doucement, toucher etc. Et là je propose d'autres choses comme toucher oust, toucher pardon, toucher et toute forme de toucher sur le boulevard.
Et pour autant, est-ce qu'on finit par tout de même s'approcher du toucher, de l'expérience, ou est-ce que on continue de s'en éloigner au fur et à mesure qu'on en approche?
Et en fait, le truc, c'est de tirer un peu moins droit, parce que, comme dit le philosophe analytique américain anglais, John Austin, j'en parle dans ce chapitre, on a un mot pour dire cochon, par exemple, pas touché, mais par exemple cochon, et puis si l'animal se présente, là, passe la porte, on dit voilà, un cochon, et c'est juste, quoi, si c'est un cochon, c'est parfait. Mais sauf s'il rentre et puis il est bleu, par exemple, il y a un problème. Et donc on ne peut plus dire voilà un cochon, on est obligé de dire un cochon mais bleu, ou presque un cochon, ou quelque chose comme un cochon. Et donc on commence déjà, et le nom ne va plus, quoi. Alors on est obligé d'en parler, parce qu'on ne peut plus nommer. Et parce que quand on nomme, on tire la flèche, quoi, pour reprendre l'image dont se sert Austin quand il parle de ça, on tire la flèche et la flèche va droit et elle va droit au but.
Et ça, c'est parfait. Insuffisant.
Ça s'appelle nommer. Et ça marche pas parce que en fait l'expérience est extrêmement plurielle, complexe et elle est jamais pile en face, quoi. Donc il faut faire dévier un petit peu la course de la flèche. Donc par toutes sortes d'ajusteurs que sont les adverbes, que sont les phrases en fait en général. Voilà, dans lesquels les noms sont transportés.
Alors tu n'échapperas pas à la première question. Hein.
Non. Et quand je lis un texte de Bénédicte, ou quand j'entends Bénédicte lire un texte de Bénédicte, j'entends un ton particulier. Et peut-être je peux parler en tant qu'éditeur. Je me souviens que quand on a reçu le chapitre K, chapitre 1 de la grammaire tibétaine en 2001, c'était ce qui m'avait immédiatement sauté aux yeux, hormis le fait que les éditions qu'on fait font 8 pages, puisque c'est un papier plié en 4 qu'on peut, et que la proposition de Bénédicte en faisait 9. Mais ça aussi, ça a quelque chose à voir avec le travail de Bénédicte. Donc il a fallu travailler pour ramener ces 9 pages à 8. Ma sensation, c'était que qu'il y avait quelque chose dans le ton de la langue, dans la façon d'approcher ce qui était... dans ce premier chapitre, quelque chose de très simple, comme ça, une suite, c'était en 2 colonnes, il y avait une suite d'énoncés d'une suite de lettres, d'énoncés de lettres tibétaines avec leurs préfixes, suffixes, en fait, les variations sur K. Et puis à côté, des proverbes dans lesquels c'est les mots, les lettres, ou les mots évoqués à gauche étaient employés, donc où on voyait les glissements de sens, etc. Et en même temps, on rentrait dans une sorte de narration, dans quelque chose qui était propre vraiment à une histoire. Et ce ton est fait de ça, de ce mélange entre une analyse d'une langue, et puis en même temps, sans cesse, cette façon de rentrer dans de la narration. Alors du coup, il y a des personnages qui apparaissent, il y a des personnages qui deviennent presque aussi importants que les lettres qui les ont fait apparaître, des cailloux, des chiens, des avions, des formes grammaticales, etc. J'ai la sensation que je peux mettre tous ces personnages au même niveau et que c'est cette histoire-là qui m'est racontée. Mais quand on avait préparé avec Bénédicte à une autre occasion, Contramain l'avait invité pour une lecture et je préparais une présentation du travail de Bénédicte et on faisait un échange d'emails comme on l'a fait pour la soirée de ce soir et je lui ai demandé sur un passage du texte si c'était une simple traduction ou si elle avait fait un montage pour savoir un peu ce qui s'était passé dans ce texte que je lisais. Et elle m'a répondu, c'est une simple traduction, mais je suis... Alors je ne cite pas exactement tes propos, Bénédicte, j'ai oublié, mais c'est une simple traduction, mais je suis tellement étonné en lisant ce que je lis que ça se traduit dans mon texte. Ça se traduit. Et ça, je pense que pour la désautorisation... des autorisations, ça serait à prendre en compte, c'est-à-dire que tout d'un coup on passe par ce pronom réfléchi qui est que là il y a quelque chose du texte qui se traduit dans le texte de Bénédicte. Alors je même si ça se présente comme une traduction, la grammaire tibétaine, ça peut se présenter par plein d'aspects comme une traduction. Je pense que c'est aussi quelque chose qui se traduit dans un texte écrit en français.
Alors Bénédicte, il faudra un peu nous éclairer sur cette grammaire tibétaine. 10 chapitres, 11 chapitres même maintenant. Je crois donc d'abord, vous avez étudié le tibétain dans les années 80. Et puis, vous avez établi une sorte de vocabulaire, je crois. Et puis, à partir des années 2000, là où va commencer cette publication des... ces chapitres de la grammaire tibétaine, qui commencent donc en 2001, je crois, avec Contramain. Vous opérez un autre mouvement, qui est celui, en fait, d'ordonner, de ranger, d'une certaine manière, ce vocabulaire, mais aussi en travaillant des illustrations avec des proverbes, avec des contes également. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter le processus là qui se joue et surtout qu'est-ce que vous opérez comme recherche dans cette langue tibétaine ?
En fait, c'est venu d'une impossibilité à traduire. Quand on apprend une langue, on cherche des textes courts pour que ce soit... On ne se met pas tout de suite à lire des proses, c'est pas possible. Et donc, je travaillais sur les proverbes qui sont courts, mais qui sont une des choses les plus difficiles au monde à comprendre, les proverbes. Hein, parce que les proverbes sont souvent fondés sur le double sens. Ils veulent dire une chose et son contraire. Et en plus, ils sont exprimés dans une langue... très consonantes, ils sont toujours duels et le premier segment et le deuxième se ressemblent sonorement, donc dans la traduction ça se perd, ça, et du coup la contradiction entre les sens, elle se perd aussi parce que la ressemblance dans les sons se perd, donc moins il y a de ressemblance dans les sons et moins on entend la contradiction dans les sens et du coup, je n'y arrivais pas. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que des universitaires un peu plus jeunes que moi, la génération d'après, travaillaient sur la même chose. Et en fait, ils ont fait un abécédaire de proverbes quelques années après le début. Et du coup, je peux retrouver les mêmes proverbes, parfois avec des traductions ressemblantes, parfois des interprétations divergentes. En tout cas, je trouvais que c'était beaucoup moins intéressant en français, quoi qu'il advienne, qu'en tibétain. Et un jour, j'ai trouvé cette idée d'essayer de faire entendre les sons du tibétain, et pour me mettre à les faire entendre progressivement, j'ai repris un poème très très célèbre dans la langue tibétaine, qui est le poème fondateur de la langue tibétaine, qui est un poème qui date de la mise en écriture de la langue tibétaine. L'écriture, elle vient d'Inde, elle a été, on est allé la chercher en Inde, soi-disant un pandit du nom de Tonmi Sambhota serait allé chercher l'écriture en Inde, et c'est lui qui aurait composé ce poème qui est fondateur de la grammaire tibétaine. C'est assez extraordinaire parce que ça... En fait, il y en a deux, des poèmes. C'est sur le premier que je travaille, et ça décrit... Ben en fait, oui, ça décrit la composition progressive du langage tibétain à partir de consonnes, en numérotant les consonnes, en disant comment est-ce qu'on peut les agencer dans l'orthographe, desquelles consonnes on peut se servir comme préfixe, desquelles on peut se servir comme suffixe. Au départ, ça ne parle pas d'analyse logique, comme on le fait en français, ça ne parle ni de sujet, ni d'adjectif. C'est une époque de la langue qui confond l'orthographe et la grammaire. Donc c'est très très progressif et c'est très beau. Ce sont des strophes métriquement très ajustées. Et donc je me suis dit, je vais reprendre ça comme cheminement, comme piste. La description que fait Tonmi Sambhota, et puis j'illustrerai. Alors en général, on illustre avec des propositions de la vie quotidienne. J'ai rencontré Gendun, mais je me suis dit que finalement, j'allais illustrer d'abord avec les proverbes sur lesquels j'avais travaillé, et que ça ferait peut-être entendre le son des proverbes. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Un constat de difficulté à rendre la merveille d'une langue. Juste une toute petite chose sur ce que tu décrivais du verbe, enfin de toutes les incidences ou de toutes les occurrences du verbe toucher. Il y a un endroit des investigations de Wittgenstein où il dit que si la balance avec laquelle on mesure le morceau de fromage était toujours constante, mais que le morceau, lui, réduisait ou grossissait à chaque fois qu'on le repèse, on serait bien embêté, hein. Et c'est un peu ce qui se passe, dit-il, en fait, ou le laisse-t-il entendre, avec tous les verbes de sensation, c'est-à-dire j'ai mal, ou je suis malade, ou j'ai ressenti, ou j'ai... recouvre des réalités qui sont exactement comme le morceau de fromage qui changerait de poids en permanence sous la balance. Voilà. Et autre chose, c'est que dans cette notion que j'essaye d'aborder, donc qui s'appelle l'ergatif et qui déplace donc dans la grammaire de ces langues qui sont des langues ergatives, ça déplace le centre de la phrase vers l'objet plutôt que vers le sujet. Je pense qu'il y a un rapport très très fort entre cette notion grammaticale et ce que Pascal a essayé d'expliquer du verbe toucher. C'est-à-dire que quand on touche, l'autre qui est touché réagit à ce toucher, il vous touche, et qui a touché en premier, quoi. C'est la question que je me pose. Il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, que nous avons publié, qui s'appelle Haroun Farhoki, qui est mort, hélas, d'ailleurs, Contramain l'a publié aussi, qui est mort, hélas, il y a assez peu de temps. Et il disait que dans la langue, il y avait un sujet, un objet. C'est-à-dire, il y a... Et que dans le cinéma, pas nécessairement. Dans le cinéma, souvent, dans les poursuites qui sont tournées au cinéma, on ne sait pas qui est le sujet, qui est l'objet, qui est le poursuivant, qui est le poursuivi. Voilà. Et donc, il disait que la langue du cinéma est moins accusative que notre langue, qui fonctionne avec l'accusatif, le cas accusatif.
Encore un petit mot sur ces... Ça s'appelle des monosyllabes, hein, c'est ça, monosyllabes.
Oui, il y a beaucoup de langues qui sont constituées de monosyllabes, oui.
Et parce que Pascal a écrit un texte sur ces grammaires, cette grammaire tibétaine. Et si j'ai bien compris ces monosyllabes, en fait, si on leur ajoute un préfixe ou un suffixe, ça change le sens, de sorte que ami peut devenir, par exemple, ravin, ou ravin peut devenir ami.
Oui, ça, c'est les mystères de l'orthographe. En fait, on a ça, nous, mais on l'oublie. Quand on a des étymologies, par exemple, les remèdes de bonne femme, en français, certains les écrivent comme des remèdes de bonne femme, F-E-2-M-E, et d'autres savent qu'en fait, ça vient de bonne famesse, réputation, et que ça s'écrit F-A-M-E depuis famesse, mais ça se prononce pareil, et fonction de est-ce qu'on écrit F-A-M-E ou F-E-2-M-E, bien qu'on le prononce pareil, c'est pas du tout la même...
Et le sens n'est pas le même.
Et le sens, en fait, n'est pas le même, mais curieusement, dans l'usage, le sens devient le même, et ça arrive souvent avec pas mal de mots, que des mots d'étymologie différentes aient été pris les uns pour les autres. Alors, en tibétain, c'est très fort, parce qu'effectivement, chaque monosyllabe est chargée sémantiquement. Bon, par exemple, en français, si dans le mot... non, je ne peux pas prendre déduire, parce que justement, c'est une préposition et c'est chargé. Duire aussi. Non, alors, prenons... alphabet, je pense pas que alphabet est un sens. Oui, si, parce que ça vient de alpha, bêta. Oui. Alpha, bêta, bon, vous allez bien me trouver un mot. Il y a plein de mots en français où chaque syllabe du mot n'a pas un sens assiette. Alors, assiette. Non, le as et le siette n'ont pas deux sens étrangers l'un à l'autre. Alors que dans les langues monosyllabiques, comme est presque le tibétain, le mot assiette ne pourrait exister que si as veut dire quelque chose et siette veut dire quelque chose. Ça y est, j'ai trouvé un mot.
Donc c'est très organique, définitive, comme langue.
Alors ce qui est organique, c'est qu'on passe son temps effectivement à mettre ensemble des syllabes. Bon, ce que vous dites dans l'organicité, c'est aussi que chaque syllabe est constituée de plusieurs lettres et que ces lettres se greffent les unes sur les autres en fonction de la manière dont Onmi Sambota a décrit leur possible greffe ou leur impossible greffe. Et donc, effectivement, chaque monosyllabe, au lieu d'être décrit par un idéogramme, comme en chinois, comme c'est le cas en chinois, donc une écriture qui dessine, en fait, qui rend par un dessin le sens, chaque syllabe est rendue par des lettres qui sont toujours des consonnes, puisque les voyelles sont des accents, comme en arabe. Donc les lettres qu'on retient, dont on retient l'existence, ce sont des consonnes. Et chaque syllabe est constituée d'une consonne qu'on appelle radicale, et puis de consonnes qui viennent plus ou moins se greffer autour, des consonnes suffixes, des consonnes souscrites, des consonnes préfixes et des consonnes suscrites. Alors ça finit par fabriquer un petit organisme, oui.
Et tout à l'heure, quand on discutait, tout à l'heure avant la rencontre, je pensais à comme les molécules de gaz.
Oui, c'est un processus, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est tout à fait un processus comme une molécule, c'est comme ce que les chimistes étudient avec la combinaison de molécules qui en forment d'autres. Peut-être qu'on pourrait aussi le comparer à la constitution d'un atome à partir d'électrons et d'un. Enfin, oui, c'est plus organique que l'atome, plus du côté de la molécule.
Mais ce jeu déjà couvre la langue tibétaine ne vous a pas suffi. Vous avez rajouté une complexité supplémentaire, notamment dans le chapitre 10, où vous avez ajouté la méthode de la contamination. D'Oscar Pasteur.
Pasteur,
est-ce que vous pouvez parler de cette méthode de la contamination qui vient donc comme ça ajouter, ou en tout cas amplifier les possibilités de mobilité du sens qu'offre cette langue.
En fait, le thème du chapitre qui s'appelle Chu, publié par Eric, Chu ça veut dire 10, donc c'était le 10e chapitre, et le thème c'est un verset de Tomi Sambota qui décrit comment on établit des listes, comment on lit entre eux. C'est une chose qui intéresse beaucoup les écrivains français aussi, le côté littéraire d'emblée en fait d'une liste. Et là, bon, j'ai parlé de ça dans le début du chapitre, et puis j'avais comme liste, en fait, j'avais la liste des faits et gestes de Gendun Choepel, de sa vie. Et là, je pouvais pas. Il n'y avait plus d'étrangeté dans la langue. Si je trouvais pas une prosodie, et cette prosodie, je l'ai trouvée à travers effectivement le travail de ce poète qui s'appelle Oscar Pastior, qui est un poète d'origine roumaine, mais né dans une région de Roumanie où on parlait l'allemand, comme Paul Celan en fait. Hein, il est de Bucovine, comme Paul Celan. Et exilé donc d'abord en Autriche et ensuite en Allemagne, donc il s'est jamais senti non étranger dans la langue qu'il parlait, qui était l'allemand, mais et qui en fait pensait que la traduction était impossible et qui a substitué au travail de la traduction ce qu'il a appelé le travail de contamination. En fait, je pense que vous retenez les concepts organiques. Tout à l'heure, vous parliez d'organique. Et la contamination, c'est le même mot que quand on se contamine avec une maladie. Hein. Et donc, il utilisait la prosodie d'un auteur pour rendre le contenu d'un autre. Voilà. Et donc, dans ce chapitre pour Eric, je l'ai terminé par un poème. Ce poème fait la liste des faits et gestes de Ganun Chepel. Mais il l'a fait dans une prosodie que j'ai empruntée à un autre poète allemand, qui est aussi un héritier d'Oscar Pastior. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, beaucoup aimé, beaucoup hérité d'Oscar Pastior. Donc ça va dans mon esprit de désautorisation, puisqu'on est tous se lisant les uns les autres. Et ce poète s'appelle Ulf Stolterfoht. Il est né en 63 et il vit à Berlin.
Et c'est ainsi que, par exemple, dans le chapitre 11 de cette grammaire tibétaine, on a donc finalement la traduction de Wittgenstein en tibétain, mais en français.
C'est-à-dire que puisque Eric avait proposé de changer la traduction du début, Eric, Jean-Dev, Michel Cohen-Halimi, la revue avait proposé de changer la traduction du début du Tractatus. Et quitte à la changer, j'ai repris effectivement la syntaxe de Wittgenstein et j'ai exprimé dans cette syntaxe un contenu qui, à mon avis, lui va bien, qui est le contenu de l'analyse d'une phrase en essayant de prouver que dans une phrase, il n'y a pas vraiment de sujet, en tout cas dans beaucoup de phrases. Et ça, je pense que Wittgenstein, à sa façon, à lui, l'a beaucoup démontré.
Si je prends le livre de Bénédicte, on a d'abord, peut-être avant de le lire, d'abord on le voit, on le regarde. Et en fait, il y a une image qui se dégage. Et Pascal, cette image, voir, c'est lire. J'aimerais que peut-être tu pourrais nous expliquer cela. En quoi le geste de regarder est un geste déjà de lecture. Je peux le préciser encore peut-être par rapport à l'inéature. Le fragment, le carré, ce petit carré-là, qui est donc un extrait de Draguer l'évidence. Ce carré-là, eh bien, tout ce qui va suivre sera une lecture de ce carré, mais pas forcément une explication du contenu, mais bien une lecture, la possibilité de le lire non pas forcément de gauche à droite, mais on peut le lire de manière horizontale, mais on peut aussi le lire de manière verticale, on peut glisser à l'intérieur de ce carré d'un mot, puis le mot d'en dessous. Donc il y a tout un jeu, comme un regard qui circulerait dans ce carré, et donc à la fois révèle sa densité, mais à la fois, c'est un texte qui vient étirer ce carré, montrer les jeux de sens possibles. Et on a l'impression, finalement, qu'on circule avec l'œil à travers ce texte-là. C'est un œil qui circule. Il y a quelque chose aussi, comme un effet, peut-être oui, peut-être un peu caméra parfois, de pouvoir s'arrêter, de zoomer, de dézoomer. Il y a des ralentis. On s'arrête aussi sur la ponctuation. Il y a un regard qui écrit.
Oui, écrire, c'est... Écrire, oui, ces textes et les publier sous cette forme, c'était les donner à voir. C'était les donner à voir d'abord. Et à partir du moment, il me semble, où l'œil se met à circuler, exactement comme tu l'as dit, sur la surface du texte, à joindre un mot avec un autre, pour une raison ou une autre, parce qu'ils se ressemblent, parce qu'on commence déjà à les lire et qu'ils... Ils ont une histoire ensemble dans l'usage de la langue. À partir du moment où l'œil commence à faire toute cette circulation-là, la circulation qui se met en marche est la circulation du sens. La circulation de l'œil, c'est la circulation du sens. Et le sens n'est que circulation. le sens, ça ne s'arrête pas. Quoi. Et sinon, ce n'est plus du sens. Voilà. Donc, s'arrête, comme je le disais tout à l'heure, s'arrêter sur un mot, si c'est pour en trouver un autre, etc., ce mouvement-là me semble intéressant, à condition qu'il n'y ait pas arrestation du sens. J'aime bien dire arrestation, parce que je crois qu'on entend bien ce que ça veut dire. Moi, j'ai fait une déclaration. J'écris contre l'arrestation du sens. Et donc, toute la façon dont le texte se présente, la succession des mots, le rythme de la phrase, tout ça, c'est pour que c'est fait en sorte que le sens ne cesse de circuler. Et le moment où le texte me semble convenir pendant pour être publié, disons le moment où je me dis bon voilà c'est ça, c'est ce texte, c'est pas le moment où je sens que ça pourrait pas être autre chose, c'est justement le moment où je sens que ça pourrait être tout autre chose, c'est-à-dire indifféremment autre chose, que tout mouvement se met à être possible pour l'œil qui circule. Et quand on a publié Drague et l'évidence, Eric a été très attentif à retrouver ce qu'il voyait sur le manuscrit. Et à rendre, donc, sur le, parce que c'était pas si simple, vu qu'on change de typo, tout change, de retrouver la linéature en fait des textes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur une ligne, qu'est-ce qui se passe sur la ligne suivante, etc. Et t'écoutais le CD en même temps. Et au moment de la lecture, cette forme qui peut être mise en mouvement, cette forme donc mouvementé fixe, je m'attache à la remettre en mouvement à ce moment-là, comme je l'ai fait de tous les textes que j'ai lus, mais notamment vous avez pu le percevoir sur les textes que j'ai projetés, puisque dans la lecture vous avez entendu que je rappelais des mots qui étaient venus avant, etc., que je reconstruisais les phrases au fur et à mesure que dans la version écrite, on va dire, elles étaient parfois très longues, ou pleines de parenthèses, pleines d'incises, donc j'allais rechercher le mot qu'on avait oublié avant, etc. Yep. Et tout ce mouvement-là, qui est de l'ordre du langage parlé, en fait, ça me permet de rouvrir, en fait, on disait tout ça tout à l'heure, quand on discutait, de mettre le texte dans une troisième dimension. C'est peut-être aussi parce que je suis lecteur de... J'ai été, enfin, pas seulement, mais notamment lecteur de choses un peu difficiles, d'auteurs dont on n'ouvre pas le livre comme ça, puis on lit la première et dernière page et on nous a raconté un truc, et voilà. Et donc, chaque fois qu'on a affaire à quelque chose comme ça d'un petit peu difficile, il faut inventer une façon de lire. Il faut inventer une façon de lire par livre, presque. Et je me suis aperçu que passer du temps, moi, à feuilleter les livres, à circuler à l'intérieur, à faire des liens, etc., avant de commencer à les lire, ou peut-être pas avant, peut-être que j'ai commencé, et puis quelque chose m'a arrêté, alors je reprends de façon plus ample, comme ça, en me promenant dans le livre de manière plus libre, plus, enfin, en tout cas moins linéaire, et après, reprendre la lecture depuis le début, là, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus simple, un peu comme... Si, enfin, vous savez tous que si on aborde une personne qu'on ne connaît pas comme ça, de but en blanc, et qu'on lui raconte sa vie, ça va mal se passer, quoi. Donc on tourne d'abord un peu autour, on apprend à la connaître et on sait sur quel ton on peut lui parler, etc. Et puis là, on peut commencer à se raconter des choses.
Votre écriture, c'est la manière dont vous avez résolu la question de la lecture. D'une certaine manière, dans votre écriture se joue la manière dont vous avez trouvé la manière de lire. Elle témoigne de votre manière de lire.
Oui, peut-être même elle en est le manifeste.
Merci à vous. Merci. Merci Pascal. Merci Bénédicte. Merci Eric pour cette rencontre. Merci à Montevideo.
C'était les mercredis de Montevideo avec Bénédicte Villegrain et Pascal Poyer, tous deux auteurs, traducteurs et éditeurs. Une proposition de l'éditeur Éric Pestis.